Pinocchio de Collodi, deuxième cassette, première face, page 64. Chapitre 11, Mangefeu éternue et pardonne à Pinocchio qui sauve ensuite la vie à son ami Arlequin. Le patron Mangefeu avait un aspect épouvantable, surtout avec cette vilaine barbe noire qui, à la façon d'un tablier, lui couvrait la poitrine et les jambes. Mais au fond, ce n'était pas un méchant homme. La preuve en est qu'en voyant le pauvre Pinocchio se débattre en tous sens et crier « Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir », il ne fut pas long à s'émouvoir et à avoir pitié de lui. Après avoir résisté un bon moment, il n'y tint plus et éternua violemment. À cet éternuement, Arlequin, qui jusqu'alors était resté affligé et replié sur lui-même comme un saule pleureur, redevint joyeux et, s'inclinant vers Pinocchio, lui murmura à l'oreille.
« C'est bon signe, mon frère. Le patron a éternué. Cela veut dire qu'il est ému, qu'il a pitié de toi. Te voilà sauvé. »
Il est bon de savoir que tandis que la plupart des hommes pleurent ou font semblant d'essuyer leurs yeux lorsqu'ils sont émus, Mangefeu avait au contraire le défaut d'éternuer chaque fois qu'il s'attendrissait. C'était un moyen comme un autre de faire connaître à son entourage la sensibilité de son cœur. Après avoir éternué, l'imprésario, continuant à faire le bourru, cria à Pinocchio « As-tu fini de pleurer ? Des gémissements m'ont donné des crampes d'estomac. Je sens des tiraillements qui... Ach ! Ach ! » Il éternua deux fois encore.
« Dieu vous bénisse, » dit Pinocchio.
« Merci. Ton papa et ta maman vivent-ils toujours ?» demanda Mangefeu.
« Mon papa, oui. Je n'ai jamais connu ma maman. »
« Quel malheur ce serait pour ton père si je te faisais, jeter dans des charbons ardents. J'ai pitié de lui. Ach ! Ach ! Ach ! »
Dieu vous bénisse, dit Pinocchio.
« Merci. Du reste, il faut avoir pitié de moi, toi aussi. Comme tu vois, je n'ai plus de bois pour finir pour rôtir mon mouton. Et toi, avoue-le, tu aurais bien fait mon affaire. Mais maintenant que je me suis apitoyé sur ton sort, je te fais grâce. Au lieu de toi, je ferai brûler quelques pantins de ma troupe. Ouais, les gendarmes !»
À cet appel apparurent sur le champ deux gendarmes de bois, longs, secs, avec le chapeau à cocarde sur la tête et le sabre à la main. Mangefeu leur dit de sa grosse voix
« Attrapez-moi cet arlequin, attachez-le bien et jetez-le dans le feu. Je veux que mon mouton soit bien rôti. »
Représentez-vous le pauvre arlequin. Il fut si épouvanté que les jambes lui manquèrent et qu'il tomba à plat ventre sur le sol. À ce spectacle, Pinocchio se jeta aux pieds de l'impresario et, pleurant à gros sanglots, baignant de ses larmes les poils de la longue barbe, il commença à implorer de sa voix suppliante
« Pitié, monsieur Mangefeu !»« Il n'y a pas de monsieur ici !» répliqua durement Mangefeu. « Pitié, monsieur le chevalier !»« Il n'y a pas de chevalier ici !»« Pitié, monsieur le commandeur !» « Il n'y a pas de commandeur !»«
Pitié, Excellence !»
À s'entendre appeler Excellence, Mangefeu ouvrit la bouche toute grande et sur le champ devint plus humain et plus accueillant. Il dit à Pinocchio
« Eh bien, que veux-tu de moi ?»«
Je vous demande grâce pour le pauvre arlequin. »
« Pour cela, il n'y a pas de grâce qui tienne, puisque je t'ai épargné. Il faut que je le mette dans mon feu, car je veux que mon mouton soit bien rôti. »
Dans ce cas, cria fièrement Pinocchio, en se redressant et en jetant à terre son béret de mie-pain, « dans ce cas, je sais ce qu'il me reste à faire. Attachez-moi et jetez-moi dans les flammes. Non, non, il n'est pas juste que le pauvre Arlequin, mon loyal ami, meure pour moi. » Ces paroles prononcées avec un accent héroïque firent pleurer tous les pantins présents à cette scène. Les gendarmes eux-mêmes, qui étaient de bois, pleuraient comme deux agneaux de lait. Manchefeu, tout d'abord, resta dur et froid comme un bloc de glace. Mais ensuite, lentement, il s'émut à son tour et commença à éternuer.
Achou! 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 Achou!
Il éternua donc plusieurs fois de suite, puis il ouvrit affectueusement les bras et dit à Pinocchio
« Tu es un brave garçon, viens ici et embrasse-moi. »
Pinocchio, se précipitant, grimpa comme un écureuil le long de la barbe du directeur et s'en vint lui déposer un bon baiser sur la pointe du nez.
« Donc, on me fait grâce ?»
demanda le pauvre Arlequin avec un filet de voix à peine perceptible.
« Je te fais grâce !» répondit Manchefeu.
Puis il ajouta en soupirant et en secouant la tête.
« Patience ! Pour ce soir, je me résignerai à manger mon mouton à moitié cuit. Mais une autre fois... « Gare à celui qui me tombera sous la main !»
À la nouvelle de la grâce obtenue, toutes les marionnettes s'élancèrent sur la scène. Elles allumèrent les lampes, les quinquets, comme pour une soirée de gala, et commencèrent à sauter et à danser. Et lorsque le jour parut, elles dansaient encore. Chapitre 12. Le patron mange feu fait un cadeau de 5 pièces d'or à Pinocchio pour qu'il les porte à son papa Geppetto. Mais au lieu de rentrer à la maison, Pinocchio se laisse séduire par le renard et le chat. Il part avec eux. Le lendemain, Manchefeu fit appeler Pinocchio et lui demanda
« Comment se nomme ton père ?»
Geppetto.
Quel métier fait-il ?
Il fait le pauvre.
Gagne-t-il beaucoup d'argent ?
Il gagne tout ce qu'il faut pour n'avoir jamais un centime dans sa poche. Quand on pense que pour m'acheter un alphabet, il a dû vendre le seul paletot qu'il avait sur le dos. Un vieux paletot tout rapiécé, tout raccommodé. Ça a été une calamité.
Pauvre diable, il me fait presque pitié. Tiens, prends ces 5 pièces, ces 5 écus d'or. Va vite les lui porter et salue-le de ma part.
Naturellement, Pinocchio remercia chaudement Manchefeu. Il embrassa l'une après l'autre toutes les marionnettes de la troupe, même les gendarmes. Puis, ne se tenant plus de joie, il se mit en route pour rentrer à la maison. Il n'avait pas fait 500 mètres qu'il rencontra dans la rue un renard boiteux et un chat aveugle qui s'en allaient clopin-clopant, s'aidant l'un et l'autre en bons compagnons de malheur. Le renard marchait en s'appuyant sur le chat, et le chat se laissait guider par le renard.
« Bonjour, Pinocchio !» dit le renard en le saluant gracieusement.
« Comment sais-tu mon nom ?» demanda le pantin.
« Je connais très bien ton père !»«
Où l'as-tu vu ?»«
Je l'ai vu hier soir !» sur le seuil de sa maison. Et que faisait-il? Il était en manche de chemise et il grelottait.
Pauvre papa, grâce à Dieu, à partir d'aujourd'hui, il ne grelottera plus.
Pourquoi?
Parce que je suis devenu un grand seigneur.
Toi, un grand seigneur?
S'écria le renard en riant d'un rire vulgaire et railleur. Le chat riait aussi. Mais pour n'en rien laisser paraître, il lissait sa moustache avec ses pattes de devant.
Il n'y a pas de quoi rire, répliqua Pinocchio. Quoique je n'ai pas envie de vous mettre de l'eau à la bouche, je puis pourtant vous dire que je possède 5 beaux écus d'or.
Et il sortit les pièces d'or que Mangepeu lui avait données. Au doux son de l'or, le renard allongea involontairement celle de ses jambes qui semblait raidie.
Le chat
ouvrit tout grand ses deux yeux qui ressemblèrent soudain à 2 lanternes vertes. Mais il les referma aussitôt, si bien que Pinocchio ne s'aperçut de rien.
« Et maintenant, interrogea le renard, que vas-tu faire de cet or ?»«
Avant tout, répondit Pinocchio, je veux acheter pour mon papa un beau paletot neuf, tout en or et en argent, avec des boutons de diamant. J'achèterai ensuite un alphabet pour moi. »«
Pour toi ?»«
Assurément, car je veux aller à l'école et travailler sérieusement. »
« Dieu t'en garde !» dit le renard. « C'est pour avoir eu la sotte pension de l'étude que j'ai perdu une jambe. »« Dieu t'en garde !» dit le chat. « C'est pour avoir eu la sotte pension de l'étude que j'ai perdu la vue de mes 2 yeux. »
Au même moment, un merle blanc qui se tenait perché sur la haie voisine fit entendre son sifflement habituel et dit
« Pinocchio, n'écoute pas les conseils de la mauvaise compagnie, sinon tu t'en repentiras. »
Pauvre merle, il eut mieux fait de ne rien dire. Le chat fit un grand saut et s'élança sur lui sans même lui donner le temps de dire « aïe ». Il l'avala d'une seule bouchée, les plumes et le reste. Quand le chat eut fini de manger et qu'il eut bien nettoyé sa bouche, il ferma les yeux et recommença à faire l'aveugle comme auparavant.
« Pauvre merle, dit Pinocchio en s'adressant au chat, pourquoi l'as-tu si maltraité ?»«
Pour lui donner une leçon. Ainsi, une autre fois, il apprendra à ne pas se mêler des affaires des autres. »
Ils étaient arrivés à moitié chemin, quand le renard, s'arrêtant tout soudain, dit à Pinocchio,
« Veux-tu doubler ta fortune ? » ?»«
Qu'est-ce que tu veux dire ?»
« Veux-tu de 5 misérables écus en faire 100, 1000, 2000 ?»«
Plaise à Dieu, mais comment ?»«
Ouh, le moyen est bien simple. Au lieu de retourner chez toi, viens avec nous. »«
Et où me conduisiez-vous ?»«
Au pays des Nigauds. »
Pinocchio réfléchit un instant, puis résolument il dit
« Non, je ne veux pas y aller. Maintenant, je suis tout près de chez moi. Je veux rentrer à la maison où m'attend papa. Dieu sait combien le pauvre vieux a dû avoir de chagrin hier en ne me voyant parvenir. Jusqu'ici, j'ai été un mauvais fils. Le grillon parlant avait bien raison lorsqu'il me disait que les enfants désobéissants ne peuvent pas avoir le bonheur en ce monde. Je l'ai éprouvé à mes dépens, car il m'est arrivé beaucoup de malheurs. Hier soir encore, dans la maison de Mangefeu,
j'ai couru un grand péril. Oh, j'en frémis rien qu'à y penser.
Donc, dit le renard, tu veux absolument rentrer chez toi. Alors va-t'en et tant pis pour toi. Tant pis pour toi, répéta le chat. Réfléchis bien, Pinocchio, dit le renard. C'est la fortune que tu repousses. C'est la fortune, répéta le chat. Tes 5 écus deviendraient 2000 écus d'aujourd'hui à demain. 2000 écus, répéta le chat.
Mais comment pourrait-il augmenter aussi vite? Demanda Pinocchio, la bouche ouverte de stupéfaction.
Je vais tout de suite te l'expliquer, dit le renard. Sache bien qu'il existe au pays des Nigauds un chant sacré que l'on appelle le chant des miracles. Tu fais dans ce chant un petit trou et tu mets dans ce trou 1 écu d'or, par exemple. Puis tu recouvres le trou avec un peu de terre. Tu arroses la terre avec 2 seaux d'eau de fontaine. Tu jettes dessus 1 pincée de sel. Et le soir, tu vas tranquillement te mettre au lit. Pendant la nuit, l'écu germe, pousse, fleurit. Et le lendemain matin, à ton lever, tu retournes au champ des miracles. Qu'y trouves-tu? Tu trouves un bel arbre chargé d'autant d'écus d'or qu'un bel épi peut contenir de grains de blé au mois de juillet. Ainsi donc, dit Pinocchio, toujours un peu ahuri, si j'enterrais dans ce champ mes 5 écus d'or, combien en trouverais-je demain matin?
C'est un calcul facile à faire, dit le renard. Suppose que chaque écu te donne une grappe de 500 écus.
Multiplie 500 par 5 et le lendemain matin, tu te trouveras possesseur de 2500 écus flambants et sonnants.
Oh, quel miracle ! S'écria Pinocchio en sautant de joie. Dès que j'aurai recueilli ces écus, j'en prendrai 2000 pour moi et je vous ferai cadeau à vous deux des 500 autres.
Un cadeau à nous ?
S'exclama le renard avec dédain et comme offensé.
Dieu t'en garde !
Dieu t'en garde ! Répéta le chat.
Nous, répondit le renard, nous ne travaillons pas par vil intérêt. Nous travaillons pour enrichir les autres.
Les autres, répéta le chat.
Quels braves gens, pensa en lui-même Pinocchio. Et oubliant subitement son père, le paletot neuf, l'alphabet et toutes les bonnes résolutions qu'il avait prises, il dit au renard et au chat, « Partons, je vais avec vous. » Chapitre 13 L'auberge de l'écrevisse rouge. Ils marchèrent longtemps, longtemps, longtemps. Enfin, sur le soir, ils arrivèrent morts de fatigue à l'auberge de l'écrevisse rouge.
Arrêtons-nous ici quelques instants, dit le renard. Nous avons besoin de manger une bouchée et de nous reposer un peu. À minuit, nous repartirons pour arriver à l'aube au champ des miracles.
Dès qu'ils furent entrés dans l'auberge, ils s'installèrent tous les trois à une table. Aucun d'eux n'avait d'appétit. Le pauvre chat, qui souffrait beaucoup de l'estomac, ce qu'il disait, ne put manger que 35 rougets, c'est des poissons, à la sauce tomate et 4 grandes assiettes de tripes au fromage. Et comme les tripes ne lui semblaient pas assez bien assaisonnées, il réclama par 3 fois le beurre et le fromage râpé. Le renard, de son côté, aurait bien volontiers avalé quelque chose, mais il dit que le médecin lui avait prescrit un régime très sévère. Aussi dut-il se contenter d'un simple lièvre escorté de poulards de grâce et de poulets de grain. Après le lièvre, il se fit servir pour varier les goûts une fricassée de perdrix, des tourneaux, de lapins, de grenouilles, de lézards, aux pommes et aux raisins. Après cela, il ne voulut plus rien. Il avait, disait-il, tant de répulsion pour la nourriture qu'il ne pouvait rien avaler. C'est assurément Pinocchio qui mangea le moins. Il demanda quelques noix, un petit morceau de pain, et laissa le tout dans son assiette. La pensée du pauvre enfant ne quittait pas le champ des miracles, et il ne rêvait que d'écus d'or. Quand ils eurent dîné, le renard dit à l'aubergiste : « Donnez-nous 2 bonnes chambres, une pour le seigneur Pinocchio et une autre pour mon camarade et moi. Avant de repartir, nous allons faire un somme. Rappelez-vous cependant qu'à minuit, nous voulons être réveillés afin de continuer notre route. » « Ouais, monsieur, » répondit l'aubergiste en clignant de l'œil vers le chat et le renard pour leur faire comprendre qu'il était d'accord avec eux. À peine Pinocchio fut-il couché qu'il s'endormit et commença à rêver. Il croyait être au milieu d'un champ couvert d'arbres chargé de grappes gonflées d'écus d'or, lesquelles se balançaient au souffle du vent et faisaient « zing, zing, zing » comme pour dire « qui en veut n'a qu'à en prendre ». Mais au moment où Pinocchio allongea le bras pour prendre une poignée de cette belle monnaie et l'empocher, il fut réveillé soudain par 3 coups très violents frappés à la porte de sa chambre. C'était l'aubergiste qui venait l'avertir qu'il était minuit. « Mes compagnons sont-ils prêts ?» demanda Pinocchio. «
Bien mieux, voilà 2 heures qu'ils sont partis. »«
Et pourquoi sont-ils tant pressés ?»« Parce que le chat a reçu un message lui disant que son fils aîné, qui avait pris froid aux pieds, était en danger de mort. »«
Ah, ont-ils payé le dîner ?»« Comment ? Mais ce sont des gens trop bien élevés pour faire un pareil affront à votre seigneurie. » « Diable, cet affront m'aurait fait grand plaisir, » dit Pinocchio en se grattant la tête. Puis il demanda, « Où m'ont-ils donné rendez-vous ?»«
Au champ des miracles, demain matin, à la pointe du jour. » Pinocchio paya 1 écu d'or pour son dîner et celui de ses compagnons, puis il partit. Mais on peut dire qu'il partit à tâtons, car au dehors, il faisait un brouillard si épais qu'on n'y voyait pas à 2 pas. Tout autour, dans la campagne, on n'entendait pas remuer une feuille. Seuls quelques vilains oiseaux nocturnes, en traversant la route, d'une haie à l'autre, venaient battre de l'aile le nez de Pinocchio. De frayeur, le pantin se rejetait en arrière et criait « Qui va là ?» Et l'écho des collines voisines répétait dans le lointain « Qui va là ? Qui va là ?» Qui va là ? Tout en cheminant, il aperçut sur le tronc d'un arbre un petit animal dont le corps brillait d'une lumière pâle et opaque comme une veilleuse dans une petite lampe de porcelaine transparente. « Qui es-tu ? » lui demanda Pinocchio. « Je suis l'ombre du grillon parlant, » répondit l'animal d'une voix à peine perceptible.
qui semblait venir de l'autre monde. « Et que me veux-tu ? » dit Pinocchio. « Je veux te donner un conseil. Retourne bien vite en arrière et porte à ton pauvre père les 4 écus qui te restent. Il pleure et se lamente de ne pas te voir. Demain, mon papa sera un grand seigneur, car ces 4 écus en auront produit 2000. N'aie pas confiance, mon enfant, en ceux qui te promettent de t'enrichir du matin au soir. En général, ce sont ou des fous ou des imposteurs. Écoute-moi et rentre chez toi. Eh bien, moi, je veux au contraire poursuivre ma route. Il se fait tard. Je veux continuer. La nuit est obscure. Je veux continuer. La route est dangereuse. Je veux continuer. Rappelle-toi que les enfants qui n'en font qu'à leur tête s'en repentent tôt ou tard. Oh, quelle histoire! Bonne nuit, Grillon! Bonne nuit, Pinocchio. Et que le ciel te préserve du mauvais temps et des brigands. Dès qu'il eut prononcé ces dernières paroles, le grillon parlant disparut, comme s'éteint une flamme sous le souffle, et la route redevint plus obscure qu'auparavant. Chapitre 14. Pinocchio, pour n'avoir pas suivi les bons conseils du grillon parlant, se voit attaqué par des brigands. En vérité, se dit Pinocchio en continuant sa route, les enfants sont bien malheureux. Tout le monde crie après nous, tout le monde nous gronde, tout le monde nous conseille. Chacun se mettrait vite en tête d'être notre père ou notre maître, même le grillon parlant. Et parce que je n'ai pas voulu écouter ce grillon radoteur, oh, qui sait à combien de malheurs je me suis exposé. Selon lui, je rencontrerais même des brigands sur ma route. Heureusement que je ne crois pas aux brigands et que je n'y ai jamais cru. À mon avis, les brigands ont précisément été inventés par les parents pour faire peur aux enfants qui veulent sortir la nuit. Et puis si je rencontrais des brigands sur ma route, je verrais bien ce que j'aurais à faire. J'irai à leur rencontre en leur criant « Messieurs les brigands, comme voulez-vous. Rappelez-vous qu'avec moi, on ne plaisante pas. Continuez votre route, et plus un mot. » À pareil discours, fait sur un ton sévère, ces pauvres brigands, je les vois d'ici, fileraient comme le vent. Et s'ils avaient le mauvais goût de ne pas vouloir filer, c'est moi qui filerais. Et de cette manière, je... Mais Pinocchio n'eut pas le temps de finir son raisonnement, car il lui sembla entendre derrière lui un bruit léger. Il se retourna et vit dans l'obscurité 2 vilains hommes noirs, la tête enveloppée dans des sacs à charbon, et qui couraient derrière lui en sautillant sur la pointe des pieds comme des fantômes. Les voilà vraiment, se dit Pinocchio, qui, ne sachant où cacher ses 4 écus, les plaça dans sa bouche sous sa langue. Puis il essaya de fuir. Mais il n'avait pas encore fait un pas qu'il se sentit saisi par le bras et qu'il entendit 2 voix terribles et caverneuses qui lui disaient « La bourse ou la vie !» Pinocchio, ne pouvant pas parler, puisqu'il avait les écus dans la bouche, gesticula et se confondit en salamalek pour faire comprendre aux 2 encapuchonnés dont on voyait tout juste les yeux par les trous des sacs qu'il n'était qu'un pauvre pantin, n'ayant pas même un faux centime en poche. « Allons, trêve d'explication, c'est de l'argent qu'il nous faut !» crièrent les 2 brigands menaçants. Mais Pinocchio fit de la tête et des mains un signe qui voulait dire « Je n'en ai pas !» Fin de la première piste de la 2e cassette de Pinocchio par Collodi. Page 86.